Vous écoutez, on lit pour vous.
Les femmes sont-elles vraiment plus sensibles au froid? Un texte de Carrie Arnold paru le 2 du 11e mois 2025 dans National Geographic. Avez-vous tendance à avoir très chaud ou êtes-vous constamment gelé? Découvrez ce que la science dit sur ce phénomène et ce que ça signifie pour votre santé et votre productivité. Cette photographie thermique montre que la main de la femme est plus froide que celle de... Cette photographie thermique montre que la main de la femme est plus froide que celle de l'homme. Des études suggèrent que les femmes sont plus sensibles au froid que les hommes, mais c'est plus une histoire de composition corporelle que de genre. Même quand les températures à l'extérieur ne cessent d'augmenter, de nombreux employés de bureau ne se séparent pas de leurs pulls ou manches longues. Plutôt que des shorts et des sandales, le froid excessif à l'intérieur des lieux de travail est synonyme de chauffage d'appoint de chaussettes moelleuses. Si le phénomène a donné lieu à un nombre infini de vidéos TikTok amusantes, le sujet est moins léger qu'il n'y paraît. Si les gens ne sont pas à l'aise, ils ne vont pas travailler au maximum de leur capacité, explique Thomas Chang, économiste d'entreprise à l'Université de Caroline du Sud. Cela semble évident au point de paraître idiot, mais c'est le résultat de nos recherches. Les travaux de Thomas Chang et d'autres chercheurs ont montré que les femmes ont tendance à se sentir plus à l'aise lorsque la température est plus chaude, contrairement aux hommes. Et ce n'est pas seulement dans les bureaux. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, à la maison ou au travail, des études ont démontré que les femmes sont plus sensibles au froid. Selon Thomas Chang, cela peut s'expliquer en partie par les différences de tenue vestimentaire. Si vous devez porter un costume 3 pièces avec cravate sur votre lieu de travail, vous aurez plus chaud que si vous portez une robe d'été et des sandales. L'autre raison, c'est que les femmes brûlent en moyenne moins de calories au repos que les hommes, ce qui crée moins de chaleur interne. Toutefois, ce n'est peut-être pas si simple. Une étude publiée en avril 2024 dans les Proceedings of the National Academy of Science a révélé que la taille et la composition d'une personne étaient plus importantes que son genre pour déterminer le moment où elle commence à avoir froid. Comment votre taux métabolique détermine votre température corporelle? Comme d'autres animaux à sang chaud, l'homme dépense beaucoup d'énergie et d'efforts pour maintenir sa température corporelle à un niveau convenable. De nombreuses espèces modifient leur comportement pour s'adapter aux températures extrêmes, par exemple en devenant nocturnes pour faire face à la chaleur du désert ou en se dotant d'une épaisse fourrure pour survivre à un hiver glacial. Mais tout comme les êtres humains varient en taille et en forme, nous varions également dans notre estimation de la température idéale. Certaines personnes se sentent à l'aise en short et en sandales, même en hiver, alors que d'autres ont invariablement froid sans chapeau ni pull. Nos préférences en matière de température extérieure sont directement liées à l'intensité de notre métabolisme. Les personnes ayant une masse musculaire plus importante et un corps plus large ont tendance à brûler plus de calories au repos que les personnes plus petites. Et si la graisse est isolante, elle peut également empêcher la chaleur générée d'atteindre les extrémités du corps. En conséquence, les préférences en matière de température peuvent être quelque peu sexuées, explique Boris Kingma, chercheur en performance thermique humaine à l'Institut néerlandais de technologie appliquée. Mais il précise que ce n'est pas aussi simple que... Les femmes préfèrent les environnements plus chauds. D'une part, il souligne l'énorme chevauchement des températures idéales entre les hommes et les femmes. Les différences qui existent sont assez subtiles, selon Kingma. D'autre part, notre température préférée varie en fonction de notre niveau d'activité et de nos vêtements. Pour Kinga, le genre de ces variables fait une plus grande différence que le métabolisme. Les données de la récente étude PNAS confirment ces résultats. Une équipe de scientifiques des National Institute of Health a constaté que l'interaction entre le taux métabolique, la surface corporelle et le pourcentage de graisse corporelle était déterminante pour l'estimation de la température idéale d'une personne. Si vous avez un taux métabolique similaire, peu importe que vous soyez un homme, une femme, une personne âgée ou autre, vous préférez le même environnement, explique Boris Kingma. Comment la température affecte votre corps? L'intérêt de Thomas Chang pour la relation entre la température et la productivité des travailleurs a commencé lorsqu'il a commencé à travailler dans un bureau où il faisait trop chaud. Il a opté pour autant de changements que possible, manches courtes plutôt que longues, café glacé plutôt que chaud, mais rien n'a changé le fait qu'il avait trop chaud pour se concentrer sur son travail. Au bureau, Chang ne pensait qu'à des moyens de se rafraîchir. Cela n'est pas surprenant, estime Boris Kingma, car le fait de devoir générer ou dissiper un excès de chaleur corporelle est physiquement stressant. Lorsque vous avez trop chaud, les vaisseaux sanguins des extrémités de votre corps se dilatent pour lui permettre de libérer plus de chaleur. Si cela ne suffit pas, on commence à transpirer. A contrario, l'exposition au froid fait se contracter les vaisseaux sanguins des mains et des pieds pour empêcher la perte de chaleur. Si la température corporelle descend trop bas, les frissons peuvent aider à produire la chaleur nécessaire. Les deux extrêmes nécessitent une production d'énergie supplémentaire, explique Kingba. Si l'hypothermie et les gelures surviennent lors d'expositions excessives au froid, des affectations comme la maladie de Raynaud se manifestent dans des conditions moins extrêmes. La maladie de Raynaud se manifeste par des spasmes des petits vaisseaux sanguins des doigts et des orteils qui donnent aux extrémités une teinte blanche ou bleue. Elle touche de manière disproportionnée les femmes et les personnes vivant dans des climats froids et est considérée comme une forme extrême de sensibilité au froid. Cette affectation est réversible en cas de réchauffement, mais elle peut être inconfortable. Au fil du temps, l'homme a mis au point des stratagèmes pour s'adapter à certains climats parmi les plus extrêmes de la planète. Le feu et les fourrures d'animaux pour se réchauffer au début de son histoire, jusqu'aux options de haute technologie telles que les tissus thermo-isolants et les vestes chauffantes alimentées par des piles permettant aux humains de vivre presque n'importe où. La seule raison pour laquelle l'homme a pu peupler la planète est sa capacité à s'adapter à l'environnement grâce à la technologie, estime Boris Kingma. Et cette technologie ne se limite pas à la climatisation, souligne-t-il. Bon nombre de ces technologies ne sont pas destinées à maintenir les humains à la température parfaite, mais plutôt à veiller à ce qu'ils ne se réchauffent pas ou ne se refroidissent pas dangereusement. Comment la température affecte votre productivité? Thomas Chang voulait savoir dans quelle mesure le stress lié au fait d'avoir trop chaud ou trop froid affecte la productivité. En collaboration avec Anya Kajakate du WZB Berlin Social Science Center en Allemagne, ils ont mené un test sur un groupe d'étudiants allemands afin d'estimer leur capacité à travailler lorsqu'ils avaient trop chaud ou trop froid. Ils ont constaté que les étudiants obtenaient de meilleurs résultats dans les tâches verbales et mathématiques lorsque les températures étaient plus chaudes, mais les hommes obtenaient de meilleurs résultats lorsqu'il faisait plus frais. La différence était significative, bien qu'apparemment subtile, quelques points de pourcentage seulement. À première vue, ce n'est pas grand-chose, mais de nombreux managers aimeraient bien augmenter la productivité de leurs employés d'un tel pourcentage, affirme Thomas Chang. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous assurer que vos employés sont à l'aise. Cela semble aller de soi, explique-t-il. Stefano Chiavone, architecte et ingénieur en environnement à l'Université de Californie à Berkeley, n'est pas convaincu. Il a mené une méta-analyse des études portant sur la relation entre la productivité et la température en compilant des données de 35 études distinctes, dont celle de Thomas Chang. Lorsqu'il a examiné l'ensemble des données, il a constaté que ce n'était qu'aux températures extrêmes que la productivité diminuait de manière significative. Si quelqu'un a un peu chaud ou un peu froid, cela n'a pas vraiment d'incidence sur ses performances, d'après lui. Mais, en fin de compte, la solution semble être simple. Il suffit de baisser l'air conditionné. Il s'agit d'une mesure d'économie de coûts et d'énergie qui devient de plus en plus importante à mesure que la combustion des énergies fossiles réchauffe la planète, explique Chiavon. Régler la climatisation intérieure et permettre aux travailleurs de personnaliser leur garde-robe et leur espace de travail pour qu'ils puissent travailler à leur aise contribuerait grandement à résoudre les deux problèmes, ajoute-t-il. Nous utilisons beaucoup d'énergie coûteuse pour rendre les gens malheureux, déclare Chiavon. C'était « Les femmes sont-elles vraiment plus sensibles au froid ?» un texte de Carrie Arnold paru le 2 du 11e mois 2025 dans National Geographic.
Un enfant, ça ne s'éduque pas tout seul. Un texte de Dominique Tamboso, directrice générale Abilio, Centre de diffusion des savoirs sur l'enfance, publié le 10 novembre 2025 dans le Journal de Québec. Tout le monde s'entend pour dire que l'éducation est à la base d'une société solide et harmonieuse. Le gouvernement prétend en faire une priorité. Pourtant, c'est l'inverse qu'on voit sur le terrain. Plusieurs récents sondages sonnent l'alarme quant au déclin de la lecture et le récent documentaire « L'écart silencieux » de la députée libérale Marois Risky nous apprend que trop d'enfants québécois, surtout les garçons, peinent à apprendre à lire. Ce constat n'est pas nouveau pour ceux qui œuvrent en éducation. Ce qui l'est davantage, c'est l'ampleur du problème et l'urgence d'agir. La lecture n'est pas une habileté innée. Elle doit être enseignée avec rigueur, selon des méthodes validées par la recherche. Or, de nombreux enseignants se retrouvent démunis. Ils veulent se former, ils savent que des programmes éprouvés existent, mais ils n'y ont tout simplement pas accès. Le paradoxe québécois. La recherche en éducation nous dit clairement qu'intervenir tôt, avant 7 ans, a un impact déterminant sur les difficultés d'apprentissage et le décrochage scolaire. Nous savons également que les enfants issus de milieux défavorisés arrivent souvent à l'école avec des lacunes importantes dans leur développement. Ces constats ne sont pas débattus. Les solutions, elles, existent. Le problème, ces solutions restent inaccessibles. Cet automne, nous assistons à un ralentissement majeur des formations destinées au personnel enseignant. Des formations déjà planifiées sont annulées. Les raisons invoquées? Compression budgétaire et impossibilité de libérer les enseignants en raison du manque de personnel. C'est un non-sens complet. À quoi sert la recherche si ses résultats ne peuvent être appliqués sur le terrain? Comment peut-on prétendre faire de l'éducation une priorité tout en coupant dans les moyens concrets d'améliorer les pratiques? Former pour mieux enseigner. Avec un nombre croissant d'enseignants non légalement qualifiés dans nos écoles, la formation continue n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Les enseignants le savent. Ils veulent apprendre à mieux enseigner la lecture, à utiliser des méthodes éprouvées, à rejoindre tous leurs élèves. Mais face aux obstacles systémiques, plusieurs se rabattent sur des ressources gratuites trouvées en ligne, souvent d'origine et de qualité incertaine. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, cette tentation est encore plus grande. Pourtant, nos enfants méritent mieux que des outils générés, guillemets, on ne sait trop comment, par on ne sait trop qui, fin des guillemets. Ils méritent des interventions fondées sur la science, des programmes dont l'efficacité a été démontrée, des enseignants bien formés qui maîtrisent les meilleures pratiques d'enseignement de la lecture, un investissement qui ne peut attendre. Nous le savons, la lecture et le niveau d'éducation sont des facteurs de protection majeurs contre les problèmes de comportement, de santé mentale et d'exclusion sociale. Plus on intervient tôt, meilleures sont les probabilités que les enfants développent les habiletés qui les mèneront à la diplomation. Si le gouvernement croit vraiment que l'éducation de nos enfants est une priorité, il doit investir dans la formation continue des enseignants. Il doit leur donner les moyens d'enseigner selon les meilleures pratiques. Il doit cesser d'improviser avec l'avenir de nos jeunes. Parce qu'un enfant, ça ne s'éduque pas tout seul. La lecture, ça s'enseigne. Et chaque enfant québécois mérite de recevoir une éducation de qualité fondée sur ce que nous dit la science. Il est temps d'aligner les discours sur les actes. L'éducation est une priorité? Prouvons-le. C'était « Un enfant, ça ne s'éduque pas tout seul », un texte de Dominique Tambosso, publié le 10 novembre 2025 dans le Journal de Québec.
Atteinte du cancer et inquiète de voir les médecins craquer. Un texte de Daniel Leblanc, publié le 13 novembre 2025 dans Le Droit. Doris Bertium ne cache pas que, comme patiente atteinte d'un cancer métastasique, elle s'inquiète profondément des impacts potentiels et déjà connus de la loi 2. Or, l'angoisse envahit comme jamais auparavant la résidente de Cantley ces jours-ci avec les dommages collatéraux de la loi 2 visant les médecins. Elle est dans un état stable, mais les démissions et les menaces de départ qui s'accumulent dans la région l'inquiètent. À fleur de peau, en pensant à cette loi controversée et aux nombreuses incongruités qu'elle a pu voir au fil des ans, elle insiste pour dire que l'ensemble du personnel est compétent et dévoué. C'est le réseau qui est malade. Elle admet que les émotions sont remontées à la surface après un rendez-vous au CLSC la semaine dernière. La goutte qui a fait déborder le vase, comme elle a écrit sur les médias sociaux. Je me suis mise à pleurer dans mon auto. Ensuite, je me suis dit « Calme-toi, c'est ridicule. Tu vas pouvoir trouver une solution », s'exclame la mère de famille. On venait de lui annoncer qu'elle sera dorénavant contrainte de s'organiser elle-même, avec l'aide de quelqu'un, à la pharmacie, etc., pour son injection trimestrielle de XGEVA, un médicament qui réduit le risque de fracture ou de douleur osseuse provoquée par certains cancers. Souhaitant l'épargner, elle refuse de demander à son conjoint, son aidant naturel depuis des années. C'est une injection pendant 3 minutes. Ce n'est pas automatique. J'ai déjà eu 30 jours d'anticoagulants à m'injecter dans le passé. Mon mari les avait faites. C'était tous les jours dans le ventre. Mais avec un bouton, un déclenchement, décrit-elle. Là, on parle d'une injection lente, d'une seringue à remplir, etc. Je ne suis pas médecin ni spécialiste. C'est vraiment fâchant d'être réduit à ça comme service. Quand tu commences à accepter ce genre de choses, quelle est la prochaine? 2 diagnostics en 13 ans. Plaidant qu'on doit tendre l'oreille aux médecins et non les punir, Mme Bertium a d'abord reçu un diagnostic de cancer du sein le 17 mai 2010. Une dizaine d'années se sont écoulées, puis de mystérieuses douleurs aux jambes à l'été 2003 ont permis d'apprendre, des semaines plus tard, qu'elle avait une hanche cassée. Préoccupée, sa médecin de famille lui a alors demandé de passer un scan. Une heure après, le verdict tombait. Le cancer récidivait et était devenu métastasique. Il s'est propagé au sacrum, aux vertèbres et à la hanche gauche, mais pas aux organes vitaux. Quand ce sera les organes vitaux, ce sera la fin. Mais c'est stable depuis parce que je suis un traitement avec 2 médicaments qui stabilisent les hormones. Ça fait presque 2 ans, dit Doris Bertium. Les hauts et les bas du système de santé, elle les connaît. Chimiothérapie, 8 chirurgies dont une mastectomie suivie d'une reconstruction mammaire, hospitalisation, transfert d'un hôpital à l'autre, tests à toute heure du jour ou du soir, visite au CLSC, rendez-vous annulé ou modifié de lieu au dernier instant, etc. Encore récemment, et ce n'est pas une première, on lui a demandé si elle pouvait plutôt se rendre à la pêche, à 45 minutes de chez elle, pour une prise de sang. Elle a vu, presque à vue d'œil, l'étau se resserrer sur le réseau fragilisé d'une région frontalière et jugé sous-financé comme l'Outaouais. Quand on compare 2010 avec 2025, il n'y a pas de comparaison à faire et ce n'est pas si loin, lance-t-elle. Je ne veux pas vous voir en burn-out. Ayant le même oncologue depuis 15 ans et se souvenant encore de l'anesthésiste qui lui a mis la main sur l'épaule avant une opération pour lui dire que tout irait bien, elle voit les noms des médecins et chefs de service des missionnaires défiler depuis quelques semaines et craint pour l'avenir. Elle sent d'ailleurs qu'une déprime s'est installée dans le milieu. « Mon oncologue, quand je vais le voir, il rencontre les patients, leur parle, les écoute. » Mais pendant une seule consultation, il y a des gens qui cognent aux 2 portes du bureau pour lui parler. Il reçoit un appel. Sa pagette sonne parce qu'il est en urgence. Il est sollicité de toutes parts. Et même avant la loi 2, ce que je trouvais le plus difficile, c'était de le voir aller. Alors je lui ai dit plusieurs fois, « Faites attention, je ne veux pas vous voir en burn-out. Je n'ai pas les moyens de vous perdre. » dit Doris Bertium. Cette source de stress est toujours présente en arrière-plan, avoue-t-elle en rappelant qu'eux aussi peuvent craquer, ce sont des humains. Ma plus grande crainte avec la loi 2, c'est de me réveiller un matin, avoir mal, avoir fait un faux mouvement, avec sa hanche par exemple, d'appeler mon infirmière pivot ou mon oncologue, puis de ne pas être capable de les rejoindre, explique-t-elle. Spécifiant que son unique frère a lui-même succombé au cancer en avril dernier. De l'avis de Mme Bertium, on ne s'est pas attardé dans cette loi aux besoins des patients ou des régions particulières comme l'Outaouais, où, image-t-elle, on est encore vraiment, vraiment loin d'une cible de prise en charge en 90 minutes à l'urgence. Selon cette dernière, même si on ne peut être contre la vertu, il est irréaliste aussi de fixer des objectifs de performance qui sont coulés dans le béton quant au nombre de patients à voir sur une période donnée, ce que plusieurs médecins qualifient de « médecine fast-food ». Un médecin pourrait voir 10 patients dans une journée et ça ne cadre pas tout avec la loi, Mais si dans ces 10-là, il y avait 2 nouveaux cancers, une biopsie de 45 minutes? Comment peut-il faire seulement 15 minutes avec chacun? Présentement, moi, je n'ai pas de complications. Alors oui, ça peut prendre 15 minutes. Mais quand ça ne va pas, ça ne va pas, clame-t-elle, rappelant que la santé psychologique est aussi à considérer. La carotte, le bâton et l'Ontario. Dans une région où on est constamment en train d'éteindre des feux comme l'Outaouais et où les médecins n'ont pas à déménager pour aller travailler en Ontario, ce qui en rajoute une couche, la dame sait ce qu'elle dirait à Christian Dubé, ministre de la Santé, dans un tête-à-tête de 30 secondes. Je lui demanderai à quel point il pense aux patients. Il est où dans cette loi? Vous les décrivez comme des personnes très vulnérables. Mais où est la prévention? Il n'y a aucune empathie dans cette loi. On ne s'y retrouve pas. Avez-vous pensé aux besoins? Il y a la carotte et le bâton, mais on ne voit que le bâton, dit-elle. Oui, c'est sûr que plusieurs médecins sont peut-être plus nantis, mais qui ferait leur métier? Qui ferait leurs heures? Pas moi. Chose certaine, celle qui a fait carrière dans la fonction publique fédérale est loin d'être impressionnée par les stratégies du premier ministre ontarien Doug Ford pour inciter des médecins du Québec à traverser la frontière. Je trouve ça tellement malsain. Dans un contexte fédéral aussi, en plein contexte de problématiques avec les États-Unis. Si on est capable de faire ça entre nous autres, entre médecins, entre provinces, comment on va se tenir pour faire face aux États-Unis s'il arrive quelque chose de plus direct? Chacun tire sur sa couverture, déplore-t-elle. C'est une question de respect. C'est purement du capital politique et c'est au détriment de la population. Ni M. Legault ni M. Ford n'ont les citoyens à cœur en ce moment. Les petits bonheurs. Entre-temps, alors que les vies continuent, la mère de 2 enfants de 23 et 20 ans, pour qui elle s'inquiète d'ailleurs si l'accès aux soins se dégrade encore dans le futur, affirme qu'elle va bien malgré la maladie. « J'ai vraiment un bon moral. Tout le monde me qualifie de résiliente, même si je déteste le mot, car ça veut dire « tais-toi et continue ». Rire. En même temps, je le regarde du côté positif. C'est vrai que je le suis. Tous les jours, j'essaie de me trouver un petit bonheur, termine Mme Berthiaume. Ça peut être aussi simple qu'un café, de la peinture ou aller luncher avec mes enfants. C'était « Atteinte du cancer et inquiète de voir les médecins craquer », un texte de Daniel Leblanc publié le 13 novembre 2025 dans Le Droit.